Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous abordons la seconde partie de cette émission en deux temps consacrée à la nouvelle théologie en islam. Et c'est avec un grand plaisir que je retrouve Constance Arminjon qui nous fait l'amitié de revenir. Merci, merci beaucoup Constance Arminjon.
Merci beaucoup cher monsieur de me réinviter à un dialogue au vif.
C'est tout à fait naturel, le sujet est si dense, si peu connu aussi de nos auditeurs, pour lui consacrer donc ces deux temps importants. Nous parlons de nouvelle théologie en islam. Alors j'ai cru comprendre, suite à notre premier entretien, qu'il ne s'agit pas d'une théologie qui se substitue à celle qui est en vigueur, et encore elle-même est plurielle, mais elle reste caractérisée par un certain classicisme, pour ne pas dire un traditionnalisme anachronique pour nos jours, mais qu'il y a des questionnements communs, il y a une audace intellectuelle, il y a une méthodologie nouvelle, et les porteurs de cette nouvelle théologie, donc ces nouveaux théologiens, pour certains parmi eux, sont étudiés, et puis ils espèrent eux-mêmes faire école au sens moral et donner naissance à cette refondation de la pensée théologique islamique.
C'est cela, en effet. Actuellement, les auteurs de nouvelles théologies, qui n'emploient d'ailleurs pas tous cette expression, mais cette expression vient tout de même de certains d'entre eux, et le premier chronologiquement a été le philosophe iranien Abdulkarim Sorouche, qui a lancé, pour ainsi dire, cette expression en persan Kalam et Jadid, qui signifie en persan à la fois théologie nouvelle et théologie moderne. C'était à la fin des années 1980, et peu après, en Égypte, un philosophe, lui sunnite égyptien, Hassan Hanafi, s'interroger à son tour, dans des termes concordants, sur les fonctions et les fondations philosophiques de ce qu'il appelait, en arabe, « kalam jadid », théologie nouvelle ou nouvelle théologie.
Alors, j'ai omis de vous présenter à nos auditeurs, mais ceux qui nous suivent et qui vous ont entendu déjà lors de l'émission précédente, vous êtes Constance Arminjon, historienne de l'islam contemporain à l'École pratique des hautes études, et surtout que vous intéressez, et votre domaine de recherche est une approche comparative. C'est dans cette perspective-là que vous étudiez les doctrines de l'islam, aussi bien dans l'obédience sunnite que dans l'obédience chiite, et vous avez ce regard synoptique, si je puis dire, sur ces deux courants de pensée, ces deux courants théologiques. Et vous-même, comment étiez-vous amené à vous intéresser à cette nouvelle production, à la fois intellectuelle et théologique ?
Comme je suis historienne, les sources elles-mêmes motivent la plus directement, sont à l'origine de mes choix de recherche. Et j'ai été très frappée par le fait que dans mes précédentes recherches sur les droits de l'homme en islam, qui elles aussi découlaient d'un constat, le constat était que à partir du milieu des années 1990, en Iran d'abord, puisque j'avais commencé par travailler sur la théologie politique et le droit en matière d'autorité dans le chiisme, certains auteurs qui avaient traité de théorie de l'État, soudain, s'emparaient en quelque sorte de la question des droits de l'homme et s'engageaient dans une comparaison méthodique, très ample, de la tradition juridique islamique, toutes branches confondues, et de celle dans laquelle ont été énoncés les droits de l'homme universels. Et certains de ces auteurs, qui sont donc des juristes religieux et théologiens chiites iraniens, soulignaient l'imbrication entre la doctrine du droit et la théologie, et en particulier Mohammad Mojtahed Shabestari, qui est, comme son nom l'indique, Mojtahed, chiite pleinement qualifié pour cela, mais qui consacre son travail essentiellement à la théologie. Et à partir du milieu des années 1990, il a commencé à publier des ouvrages en se consacrant à la théologie avec d'abord un questionnement sur ce qu'il appelait lui-même l'intelligibilité de la théologie classique dans l'islam contemporain.
D'emblée, tout de suite, parce que c'est vous qui finalement me tendez la perche, chère Constance Armingeon, vous avez parlé d'un mujtahid, un mot qui a la même qui vient de l'ijtihad, lui-même qui a la même racine que djihad, qui ne veut nullement dire guerre sainte, mais plutôt effort. Et là, en l'espèce, l'effort est intellectuel, cérébral, mental, un effort de recherche. Mais d'un point de vue purement technique, l'ijtihad, il faut lever peut-être une ambiguïté sur deux points. D'abord, on dit que ces portes ont été fermées et on ne trouve nulle trace ni dans l'histoire ni qui a ordonné la fermeture des portes de cet ijtihad, donc de cet effort. Et le second point, je le résume par cette question, mais l'ijtihad, pourquoi faire? Ces nouveaux théologiens ou ces nouveaux penseurs de la théologie nouvelle et moderne disent dans le temps c'était consacré en gros à la jurisprudence ou au droit savant, mais ce n'est pas pour la théologie qu'il y a cet effort intellectuel.
Premier point, vous avez évoqué la doctrine de la fermeture de l'ijtihad. C'est assez amusant, on peut dire, qu'il y a déjà plus d'un siècle, un juriste français qui travaillait sur le droit en islam et qui a été professeur à l'école Khediviale de droit au Caire, Pierre Armingeon, qui s'est intéressé à l'enseignement.
Qui est votre grand-oncle.
Mon arrière-grand-oncle. Et qui a consacré donc un livre à l'enseignement religieux à Al-Azhar. Et dans ce livre publié en 1907, Pierre Armingeon constate que, selon ses termes, une sorte de dogme s'est imposé dans les milieux azhariens, d'après lequel les portes de l'ijtihad auraient été fermées, mais, dit-il, nulle part il n'y a de source de l'élaboration de ce dogme. Et il constate lui-même, puisqu'il est juriste, que cette doctrine ne correspond pas du tout à la réalité, car d'une part, le droit musulman a évoluer au fil du temps et que, notamment, à partir de la création de l'Empire ottoman, les juristes ottomans ont été extrêmement imaginatifs, en quelque sorte. Donc, le droit en terre d'islam sunnite n'a pas du tout été figé. Ça, c'est le premier point que vous évoquiez. Le deuxième.
Avant d'aller au second, s'il vous plaît, c'est que je me rappelle moi-même, ça va dans le sens d'un article dans Studia Islamica de Joseph Chartres, qui a été très peu lu d'ailleurs, intitulé « Petite genèse d'une grande fiction », où il démonte cette idée que les portes de l'ijtihad, selon la formule consacrée, auraient été fermées. Et il dit, on ne sait pas quand, on ne sait pas par qui, dans quel contexte, et qui a fait cette proclamation. Et puis il s'étonne pourquoi cette idée-là demeure dans l'esprit des contemporains, musulmans et non-musulmans, qu'il est temps de rouvrir ces portes-là censées être fermées. Et là, vous me dites, avec votre arrière-grand-oncle Pierre Armingeon, qui est un juriste reconnu, que lui-même s'en était étonné, plus cet article-là, pourquoi cette idée est fixe et elle est ainsi, selon vous?
Je n'ai pas d'explication. Il faut seulement souligner que cette idée était donc prégnante dans les milieux des roulamas sunnites eux-mêmes, et non pas du tout dans celle des ulama chiites.
Ulama étant savant, docteur de la loi, etc. Alors pour le second point, pardonnez-moi, je vous avais interrompu avant, c'est d'un point de vue purement technique, cet effort d'interprétation, un effort intellectuel, cérébral, mental, consenti par ces savants, finalement, ce n'est que dans le domaine du droit, dans ce que vous appelez le droit savant, et ça ne concerne pas d'autres disciplines, et encore moins la théologie. Et ces nouveaux penseurs, ces nouveaux théologiens, mettent le doigt sur une question de méthode, et donc ils veulent aussi une nouvelle méthodologie.
En effet, cette question que vous posez est tout à fait capitale. Ijtihad, pour les juristes religieux de l'islam sunnite et chiite, cela a un sens précis qui est l'effort de déduction des préceptes du droit à partir des sources canoniques du droit, qui sont le Coran et la tradition, laquelle tradition a une ampleur qui varie selon que l'on est sunnite ou chiite, et selon donc déduction à partir des sources canoniques, suivant une méthodologie propre aux écoles juridiques. C'est donc un processus à visée juridique. Il peut donner lieu à des, je dirais, à l'élaboration de préceptes nouveaux au fil du temps, etc. Mais c'est un effort qui a une visée juridique. Et donc, dans un autre domaine, qui est celui de la théologie, qui est une autre discipline du savoir religieux, il n'est pas question d'ijtihad. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, certains auteurs, et notamment le philosophe Sorouche, qui, tout en ayant fait des études scientifiques et de philosophie des sciences, qui se caractérise par son approche épistémologique, il a néanmoins eu une formation assez complète en savoir religieux, parallèlement à sa formation en sciences et en philosophie des sciences. Eh bien, il souligne que l'ijtihad n'est pas, je dirais, que son but va au-delà de l'ijtihad, ne concerne pas l'ijtihad. Ce qu'il entreprend, c'est de mettre en question les fondations philosophiques de la théologie. Donc il n'est absolument pas question d'ijtihad, parce qu'il n'est pas question de normes du droit, et il même si, certes, les efforts de reformulation de la théologie vont se répercuter sur le droit. Mais la visée principale consiste dans la théologie elle-même. Et ça, c'est la nouveauté majeure de cette série de questionnements qu'il a inaugurée à la fin des années 80.
Et là, j'aurais deux questions, là aussi. La première, c'est que le droit, in fine, nous n'avons plus besoin, si j'ai bien compris, Abdelkarim Sorouche, d'inférer toujours à partir des sources canoniques premières et même secondes, donc celle du Coran et de la tradition, aussi plurielle, comme vous le dites, tant au niveau sunnite qu'au niveau chiite, l'élaboration du droit, mais qu'il vaut mieux laisser place au droit positif et à une sorte d'élaboration, une émanation rationnelle, d'une part. Et le second point, c'est la philosophie même, les nouveaux fondements d'une philosophie, et là, ils disent au pluriel, parce que ce n'est pas que lui, c'est qu'on commence à réfléchir à une philosophie d'une discipline donnée lorsqu'on commence à prendre de la distance par rapport à son domaine de recherche et qu'on commence à la questionner et on commence à interroger les présupposés de la dite discipline, en l'espèce la théologie.
C'est exactement cela. Alors, il faut tout de même souligner que chez beaucoup d'entre eux, qui sont des en tout cas en Iran, certains auteurs de nouvelles théologies sont des juristes religieux de métier et théologiens. Et pour eux, il n'est pas question de négliger l'importance du droit, bien au contraire. Mais ce qu'ils soulignent, c'est la distinction des disciplines, distinction des fondements et distinction des visées. Elles ont beau être imbriquées, elles sont distinctes. Et pour eux, il importe au premier chef de repenser la théologie. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas au droit. Et d'ailleurs, justement, les théologiens juristes, donc Chabestari et Kadivar en Iran, ont aussi proposé une critique exhaustive du droit substantiel islamique et livré des propositions pour le refonder.
Aujourd'hui, nous voulions, d'ailleurs, l'émission précédente, entrer in medias res, parce que on continue à faire connaissance avec ces nouveaux théologiens. Je les appelle nouveaux, ils sont pas si nouveaux que ça, mais leur production intellectuelle et cette nouvelle théologie dont ils veulent jeter les bases, à nouveau frais, au niveau de la pensée. Vous avez repérer trois grands champs ou trois grands contextes. Le contexte sunnite avec l'Égypte et la Turquie, et le contexte chiite avec l'Iran, et parfois certains Iraniens qui ne vivent pas en Iran.
En effet, il y a trois foyers géographiques principaux. Comme vous l'avez dit, en islam sunnite, les deux foyers sont l'Égypte, et dans une moindre mesure, la Turquie, avec des différences assez notables entre les deux. En Turquie, il s'agit de théologiens de métier, qui sont tous passés par la faculté de théologie d'Ankara, fondée en 1949.
Le 4 juin.
C'est ça. Leur préoccupation principale vise l'exégèse du Coran. Certains d'entre eux ont évoqué l'historicité du texte coranique, mais ils sont moins, et je dirais, ils sont encore au seuil du travail dans lequel se sont engagés certains auteurs en Égypte et d'autres en Iran. En Égypte, les deux principaux auteurs de nouvelle théologie étaient Hassan Hanafi, qui est mort en 2021, philosophe, et d'autre part, Nas Hamid Abu Zayd, qui avait d'abord été l'élève de Hanafi, mais qui s'en est éloigné de manière explicite et qui a critiqué même le projet de nouvelle théologie de Hassan Hanafi et qui a entrepris en qualité de professeur de littérature, mais qui avait été marqué à la fois par qui s'est inscrit dans un double sillage, celui de Taha Hussein, professeur à l'université du Caire, qui avait traité, qui était écrivain majeur bien sûr, mais qui souhaitait que l'on étudie les textes, quels qu'ils fussent, y compris les textes sacrés, avec une méthode d'histoire critique. Et d'autre part, au cours d'un séjour d'études aux États-Unis, Abu Zayd a découvert l'herméneutique et en particulier celle de Gadamer. Et il a donc œuvré de manière à la fois empirique mais extrêmement féconde et puissante à un rapprochement entre une tradition littéraire d'étude des textes et une tradition philosophique, donc herméneutique. Les deux auteurs ne sont pas des savants religieux. Au contraire, dans le monde chiite, seuls des auteurs iraniens se sont engagés dans un travail de critique, d'abord de l'héritage théologique classique, et de refondation. Ni des auteurs chiites irakiens, ni libanais, ni d'autres pays du Golfe, où il y a d'importantes communautés chiites, ne sont engagés dans ce travail. En outre, en Iran, il y a non seulement des philosophes de statut laïque, comme Sorouche, donc qui a été le précurseur au sens précis du terme chronologiquement, à partir de la fin des années 1980, en 88 précisément, il y a aussi des théologiens de métier dont nous parlions, Chabestari, qui est le principal parce qu'il, depuis près de 30 ans, il consacre toute son œuvre à la théologie, parallèlement à son enseignement à la faculté de théologie de l'université de Téhéran, et d'autre part, Mohsen Kadivar, qui est, lui, davantage un juriste religieux, contribue aussi à la critique et à la refondation de la théologie en islam chiite.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, la seconde partie consacrée à la nouvelle théologie en islam avec Constance Arminjon, historienne de l'islam contemporain à l'École pratique des hautes études. Et surtout, Constance Arminjon a une fine connaissance des doctrines de l'islam dans une perspective comparative du sunnisme et du chiisme. Constance Arminjon, Nasr Hamed Abu Zayd, pour parler du foyer égyptien, s'est écarté, s'est éloigné, en ayant critiqué même la notion de nouvelle théologie de son maître Hassan Hanafi, mais c'est moi qui fais une restriction, que vous corrigez ou pas, il rejoint la nouvelle théologie déjà avec son approche critique lui-même et cette notion du texte, et puis la critique du récit, de l'art du récit, si j'ose dire. Ça lui a valu de sérieux ennuis. Comment se fait-il que Dieu, qui est censé parler dans le Coran, on peut qualifier d'art du récit dans la révélation coranique? Mais avec cette critique, il rejoint déjà la nouvelle théologie, implicitement.
Abou Zeid n'emploie pas l'expression de nouvelle théologie. Il ne critique pas l'entreprise de Hanafi en matière de théologie. Mais il critique la doctrine elle-même, théologique, de Hassan Hanafi. Parce que pour Abou Zeid, Hanafi soutient à la fois qu'il faut repenser les bases philosophiques de la théologie en islam et n'en demeure pas moins ancré dans les bases philosophiques de la théologie islamique classique. C'est la raison pour laquelle Abou Zeid le critique, parce que selon lui, en quelque sorte, l'entreprise de Hanafi est bancale sur le plan intellectuel. Mais il s'aventure, sans employer les termes, il s'aventure bel et bien, d'abord pleinement dans la dimension critique, et combien critique, puisque l'un de ses ouvrages, comme vous l'avez évoqué, est la critique du discours religieux, Naqd al-Khitab al-Dini, qu'il avait composé pour l'essentiel durant un séjour au Japon, où il a été professeur invité à l'université d'Osaka, et qu'il a publié donc en 1992 en Égypte. La caractéristique d'Abou Zeid est l'ampleur et l'acuité de la critique qu'il livre des savoirs religieux et en particulier de l'exégèse et de la théologie.
Maintenant, si nous entrons davantage in medias res dans la matière même de cette nouvelle théologie, la nouveauté, c'est l'apport et le fait de s'appuyer sur de nouvelles disciplines des sciences humaines, et tout particulièrement aussi le fait de faire appel à la philosophie tout court, ou les courants philosophiques occidentaux notamment, faisant partie du patrimoine humain. Il n'y a aucune raison de ne pas en profiter, si j'ose dire. Et le second point, c'est encore une fois définir une méthode.
En effet, je crois qu'il faut d'abord insister sur la dimension critique, puisque chronologiquement, et aussi si on fait un bilan maintenant, puisque cette entreprise a commencé il y a un petit peu plus d'une trentaine d'années, l'effort a d'abord consisté en une critique épistémologique des savoirs religieux, plus ou moins exhaustive selon les auteurs, mais qui visait les méthodes des savoirs religieux, qu'il s'agisse de l'exégèse, du droit ou de la théologie. Pour se concentrer sur la théologie, la critique a d'abord porté sur les fonctions mêmes de la théologie. Dans la théologie musulmane qui est encore en vigueur aujourd'hui, la théologie a d'abord pour fonction, bien sûr, celle d'exposer la doctrine de la foi et les dogmes, de les démontrer rationnellement, et enfin, de défendre la théologie et l'islam en général, ad intra, contre des éventuelles hétérodoxies, et ad extra. Or, pour des raisons philosophiques, certains marqués par la critique kantienne de la métaphysique, c'est le cas explicitement des hôtes de trois des quatre figures de proue iraniennes, on ne peut pas démontrer les dogmes. Et donc, la fonction démonstrative de la théologie est caduque.
Et inopérante.
Et inopérante et parfaitement obsolète. La fonction explicative reste évidemment primordiale, mais l'explication des dogmes, cette fonction va avoir un nouvel objet, puisqu'il ne s'agira plus dénoncer ou de justifier les dogmes tels qu'ils se sont transmis sur la nature de Dieu, la nature des textes sacrés, par exemple, et dans le cas du chiisme, la nature des imams. Mais il s'agit de repenser le contenu même de la dogmatique. Enfin, chez les auteurs chiites iraniens, c'est une particularité distinctive des auteurs chiites de Nouvelle Théologie, la fonction apologétique est vaine et il faut y renoncer. Ce n'est pas le cas de Hassan Hanafi qui, au contraire, lui, a perpétué activement la fonction apologétique de la théologie et qui a appelé ou qui souhaitait explicitement l'avènement d'un nouveau cycle de l'histoire, parce que il développe une philosophie de l'histoire, un nouveau cycle dans lequel l'islam, entendu au sens de monde musulman, serait à nouveau l'hégémon du monde. Donc il y a une différence là assez nette sur la question de la fonction apologétique.
Pourrait-on dire à ce stade-là que de l'ensemble des protagonistes et de ces, moi je les ai déjà baptisés nouveaux théologiens, ou en tout cas précurseurs ou protagonistes de cette nouvelle théologie,
ils le sont,
Hassan Hanafi est le moins audacieux ou qui est resté encore imprégné de classicisme, y compris avec cette approche apologétique, alors que pour les autres, la critique est telle qu'il vaut mieux s'affranchir d'une visée apologétique.
En effet, Hanafi, alors cela, je dirais, la place de Hanafi varie selon qu'on intègre ou non les auteurs qui se qualifient eux-mêmes de l'auteur de l'école d'Ankara. Cette expression ne vient pas de moi, c'est la leur. Et comme vous l'avez noté, autant que faire se peut, j'emploie des expressions qui sont celles des auteurs eux-mêmes, pour les désigner.
Et pardonnez-moi, l'école d'Ankara, cette faculté d'Ankara, elle-même, et pour une fois, s'appelle Ilahiyat, une faculté des sciences divines, en quelque sorte, enfin, de théologie.
En effet.
Alors que en Iran et en Égypte, aussi bien dans les deux langues véhiculaires, on est encore dans ilm al-kalam, la science de la parole, qui renvoie effectivement à la théologie.
En effet, c'est un choix de désignation qui a une certaine incidence, sans doute. Mais le terme même de kalam est employé par ces auteurs égyptiens et par les auteurs iraniens, peut-être aussi justement pour montrer qu'ils s'inscrivent dans une tradition millénaire. Ils ne sont pas du tout coupés de leur tradition et c'est ce qui fait aussi, à mon avis, la portée de leur œuvre. Ce ne sont pas des auteurs marginaux. En Iran, ceci est flagrant, puisque deux des quatre principales figures sont des théologiens de métier, qui sont nourris et qui ont été formés par certains des plus grands maîtres de la théologie, notamment Allamé Tabatabai, qui est mort en 1981. Mais même les auteurs égyptiens, Hanafi et Abu Zayd, sont pétris de cette tradition théologique et la connaissent très bien. Abu Zayd a consacré sa thèse à Ibn Arabi et ensuite s'est intéressé à Shafi'i, fondateur d'une école juridique.
Mort en 820.
Voilà, et donc ce ne sont en aucun cas sur le plan intellectuel des marginaux.
Maintenant, il y a la nouveauté et nous l'avons dit, le recours à ces disciplines profanes dans l'esprit de certains, mais en tout cas les sciences humaines, y compris la sociologie et l'anthropologie, mais avec une petite difficulté soulevée ailleurs et pas uniquement avec eux, c'est que le sociologue, me semble-t-il, mais je ne veux pas généraliser, et s'affranchit du temps, et du temps historique, soit il est dans l'événementiel, soit il est dans le temps long, alors qu'en réalité, l'historien a un regard qui tient compte de l'évolution des choses dans leur continuité. Et l'anthropologie, c'est aussi presque, on est dans le à-temps. Et ils ont poser cette question de méthode quand ils font appel à ces disciplines autres que théologiques pour fonder cette nouvelle théologie.
En réalité, ils ne recourent pas du tout à la sociologie ni à l'anthropologie, aucun d'entre eux. Ils se sont nourris de philosophie, principalement. Certains d'entre eux, et même un seul en réalité, qui est Chabestari, régulièrement étudie des ouvrages d'histoire des religions et en particulier d'histoire de l'islam composés en Europe. Et en particulier parce qu'il a séjourné 10 ans en Allemagne, à Hambourg, en qualité de recteur du centre islamique de Hambourg, qui est un des principaux centres religieux chiites en Europe, qui avait été fondé dans les années 1950 à l'instigation de l'ayatollah Boroujerdi. Chabestari a découvert l'herméneutique des textes chrétiens, donc dans le cadre des théologies chrétiennes, catholiques et protestantes contemporaines, et les philosophies modernes et contemporaines. Il lit l'allemand et il sait aussi inspiré dans sa propre recherche théologique des travaux réalisés donc principalement par des historiens allemands de l'islam, et notamment il cite plusieurs fois un ouvrage considérable sur la théologie de Joseph van Hesse, qui a d'ailleurs été décoré du temps de Roménie pour ses travaux sur la théologie de l'islam des trois premiers siècles Donc la source principale, c'est la philosophie et, dans une moindre mesure, l'histoire des religions.
Les autres disciplines, comme l'herméneutique moderne, la sémiologie, la médiologie, la paléographie, des choses comme ça, ils n'y touchent pas.
Non, ce qui les inspire, ce sont certains grands philosophes. Soruş, Malekian et Chabestari se réfèrent à Kant et à sa critique de la métaphysique. Malekian et Chabestari, plus récemment, ont été marqués par Wittgenstein. Je ne suis pas compétente, hélas, en la matière, mais Chabestari cite Wittgenstein dans ses études sur le Coran, dans sa série d'articles intitulée « Qira'at-e Nabavi az-Jahan », qui veut dire « lecture prophétique du monde ». Et l'un des auteurs qui les a le plus marqués, outre donc Kant, c'est Gadamer, qui a marqué donc aussi bien Chabestari que Abu Zayd, donc en auteur sunnite, qui a découvert Gadamer aux États-Unis.
Alors là, je crois que c'est le point le plus important de ces deux émissions, et enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est qu'ils ont une grille de lecture que je résume dans cette prémisse axiologique qui consiste à dire que toute exégèse et interprétation, notamment de la révélation coranique, qu'ils ne tiennent pas compte du respect de la dignité humaine, de l'égalité ontologique entre les êtres humains, de la liberté, n'est pas une exégèse recevable.
Alors, ça n'est pas exactement formulé comme cela, les conséquences juridico-politiques sont exactement celles que vous évoquez. Ce qui est frappant, c'est que tous les auteurs font une critique épistémologique de l'exégèse et donc rompent avec une tradition proprement exégétique. Aucun d'eux n'entreprend une exégèse philosophante du Coran. La question n'est pas là pour eux. La question est de s'interroger, de livrer une critique épistémologique des fondements même de la discipline exégétique, des fondements de la théologie, des fondements du droit savant, et des fondements aussi des fondements de la discipline appelée fondements du droit ou sous l'alfir. Leur herméneutique les amène fondamentalement à une critique épistémologique des disciplines. Et en outre, ils sont convaincus, non pas tous, mais Chabestari et Kadivar, principalement, ont articulé leur critique de la théologie à une critique de la tradition juridique. Et ils ont conjugué un effort critique qui n'a pas de précédent dans l'ampleur, une critique exhaustive du droit substantiel, donc le fiqh, et des fondements du droit. Ils ont conjugué donc un effort critique exhaustif à des propositions de refondation du droit. La première concerne la discipline, donc, qui, comme vous savez, est une discipline particulière du savoir religieux, appelée usul al-fiqh, que l'on peut traduire par fondement du droit. Je précise savant pourquoi cette insistance, tout simple, pour deux raisons. D'abord parce que fiqh a pour étymologie vient de la racine qui signifie être intelligent, savant, bien comprendre, et essayer de comprendre. Donc c'est pour rester dans la traduction aussi proche du terme arabe lui-même, très riche. La deuxième raison est que depuis le milieu du 19e siècle, des réformes du droit ont été entreprises qui ont amené à une synthèse entre des droits d'origine européenne, principalement des droits d'Europe continentale, et les droits étatiques, informés principalement par le fiqh. Autrement dit, la tradition juridique, si on est à une certaine échelle, s'est dédoublée en islam. Il y a des droits étatiques assez composites et le droit savant qui s'est perpétué, et c'est tout en se renouvelant à époque de manière régulière depuis un siècle et demi, et qui est élaboré par les savants religieux. Et donc quand je dis droit savant, cela désigne le droit élaboré dans les écoles religieuses, qu'il s'agisse d'Al-Azhar, de Najaf ou de Qom, par exemple. Et donc Kadivar et Chabestani ont critiqué les fondements du fiqh et le fiqh et ont proposé tout d'abord de hisser, si j'ose dire, la raison au même statut que les textes scripturaires comme source de la loi. Et ça, c'est une différence capitale qui fait l'objet de malentendus jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'alors, et cela a été réaffirmé par une source d'imitation chiite, le grand ayatollah Soneï qui est mort en 2020, qui pourtant avait entrepris de reformuler certains préceptes du droit en vue d'accorder le droit islamique, de faire converger le droit islamique vers les droits de l'homme universel, mais selon lui encore, donc qui est une autorité suprême en matière de droit, puisque c'est la fonction des marjans, les sources d'imitation en islam chiite, la raison est seconde. Donc la raison est extrêmement ingénieuse, mais elle est seconde. Donc elle vient après les textes scripturaires, elle n'est pas source du droit.
Elle est ancillaire.
Elle est ancillaire, exactement. La révolution que propose explicitement Kadivar et Chabestani, c'est de conférer le même statut à la raison. Bon, c'est fondamental.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de nouvelles théologies en seconde partie consacrée à ce thème et à ce sujet, celui de la nouvelle théologie en islam, avec Constance Armingeon, historienne de l'islam contemporain à l'école pratique des hautes études. Constance Armingeon connaît très bien les doctrines de l'islam dans une perspective comparative du sunnisme et du chiisme. Pour cette dernière partie de l'émission d'aujourd'hui, Constance Armingeon, deux choses. La première, quel est l'impact de cette nouvelle théologie dans la psyché, si j'ose dire, à la fois des institutionnels, mais aussi des fidèles, normalement. Et puis, j'ai cru comprendre aussi dans votre ouvrage qu'il s'était nourri, directement ou indirectement, déjà du précédent Mohamed Iqbal, avec la reconstruction de la pensée religieuse en islam.
Iqbal est cité par deux auteurs iraniens chiites qui sont Sorouche et Chabestari. Mais les projets sont totalement divergents. Iqbal a renouvelé le langage de la théologie. Il a introduit une préoccupation qui est demeurée centrale, c'est celle de la subjectivité du fidèle. Autrement dit, il s'est concentré sur l'expérience religieuse des fidèles plutôt que sur Dieu lui-même, on pourrait dire. Mais il est resté fondamentalement apologiste de l'islam qu'il a présenté de manière, en tout cas dans son principal ouvrage traitant de théologie, donc The Reconstruction of Religious Thought in Islam, qui est paru en 1934, il a appréhendé de manière on ne peut plus lapidaire à la fois la tradition philosophique de l'islam et celle de l'Europe.
En citant par moments Bergson, parce que c'est son ami.
C'est ça, mais je dirais ça fait violence à l'esprit, en réalité, un esprit familier de la philosophie, ce qui n'est pas mon cas, je suis historienne, mais enfin, tout en étant historienne, je vois que Iqbal veut juger, d'abord, veut énoncer des jugements définitifs et alors même que dans sa préface, il soutenait qu'il voulait évaluer la tradition théologique de l'islam à la lumière des philosophies modernes de l'Europe, en réalité, il veut toujours faire prévaloir de manière lapidaire la tradition de l'islam dans la longue durée. Il n'a non plus pas une vision du tout historique. Au contraire, Sorouche et Chabestari, qui citent Iqbal pour le commenter, attention, citer ne veut pas dire rallier tel ou tel auteur. Il ne rallie pas Iqbal et il le critique. Tout d'abord, ils soutiennent, et Sorouche le dit dans cette œuvre qui est l'œuvre inaugurale de la nouvelle théologie, qu'il commence dès 1988 par le premier article d'une série intitulée contraction et expansion théorique de la loi divine, ce qui est assez abscons, il faut le noter malheureusement, mais les articles sont extrêmement clairs. Sorouche annonce que certains penseurs qui l'ont précédé, dont Iqbal et d'autres, n'ont pas compris l'enjeu. Selon lui, l'enjeu consiste dans une critique épistémologique des fondations de la théologie. Donc il se démarque aussitôt d'Iqbal. Et Chabestari fait la même chose. Donc Iqbal a été un précurseur parce qu'il a mis en avant l'idée de l'importance de l'expérience religieuse de l'individu. Ça, c'est capital. Mais pour le reste, il n'est pas du tout un précurseur des auteurs qui ont commencé leur travail à la fin des années 80. Il n'a pas redéfini la foi, ce qui est une des caractéristiques, si vous me permettez d'en parler maintenant.
Je vous en prie, de cette nouvelle théologie, de la nouvelle théologie.
C'est à part donc cette entreprise critique qui chronologiquement a été le premier, ce que j'ai proposé d'appeler le premier chantier, parce que c'est vraiment un chantier de travail. Le deuxième chantier consiste dans la redéfinition de la foi. Ce chantier est principalement...
Ou de la doctrine de la foi.
De la doctrine de la foi. Principalement, c'est un chantier iranien, puisque Hanafi, lui, a gardé l'idée d'une religion ayant une forte dimension idéologique, tandis qu'Abou Zeid, qui a une vision extrêmement proche de celle des auteurs iraniens, l'a formulée de manière extrêmement concise et elliptique. Mais Abou Zeid soulignait qu'il était inapproprié d'accorder autant d'importance à l'obéissance à la loi et il récusait toute forme d'idéologisation de la religion. En Iran, que ce soit donc les théologiens juristes de métier, Kadivar et Shabestari, ou Sorouche et Malekian, ont des définitions étonnamment proches d'après lesquelles la foi, c'est la même chose que l'amour. Iman as jense eshkast, ils disent en persan, Sorouche et Kadivar, c'est quasiment la même formule. La foi et l'amour passionné, eshk en arabe, sont de même nature. Ils soulignent tous que la foi est amour et ils distinguent avec une parfaite acuité la foi de l'adhésion à des dogmes, de l'adhésion, de l'obéissance à la loi, et enfin de l'idéologie. Il y a quatre dimensions dans ce qu'ils appellent la religiosité, la foi étant une dimension à part entière, distincte, dont ils soulignent l'irréductible liberté. Autre chantier, c'est celui de la théologie des religions, qui s'est plus développé chez les auteurs de nouvelles théologies de l'Iran chiite, puisque Abou Zeid n'en a pas parlé. Hanafi a fait une synthèse entre une philosophie de l'histoire révolutionnaire et la théologie de l'histoire sunnite, dans laquelle donc il appelle à un nouvel avènement d'un islam hégémonique. Alors que dans l'Iran chiite, Sorouche a développé la thèse du pluralisme religieux en matière théologique, et Malekian et Shabestari, sans s'engager pleinement dans la controverse inaugurée par Sorouche en 1997, ne sont pas réticent à l'idée du pluralisme théologique, alors que Kadivar, au contraire, lui, qui est bel et bien un auteur de nouvelles théologies, mais reste beaucoup plus classique dans des pans considérables de la théologie, il récuse le pluralisme religieux, qu'il taxe de relativisme, et d'autre part, Kadivar ne s'est pas engagé dans une reformulation du dogme sur la nature du Coran. Il vient d'écrire quelques textes sur les dogmes imamologiques, mais il me reste encore à les déchiffrer.
Chère Constance Arminjean, nous qui arrivons au terme de l'émission, je n'ai plus le temps de vous poser la question comment se situe-t-il par rapport à ce courant, notamment dans le contexte sunnite. Jamal ed-Din, Assad Abadi, Afrani, Mohamed Abdou et Rachid Reda, à supposer que l'on n'ait pas une sorte de perte un peu dans l'audace, puisqu'apparemment chez certains, on pense que lorsqu'on est révolutionnaire, on devient modéré, et puis à la troisième génération, on devient conservateur. Indépendamment de cela, comment se situe-t-il? Et on finira avec votre réponse.
Alors, il n'y a rien à voir.
Ils s'en affranchissent totalement.
Alors d'abord, chaque personne que vous avez citée, Jamal ed-Din, iranien de culture chiite, qui était avant tout un activiste, Mohamed Abdou, qui en matière de théologie est fondamentalement un apologiste de la théologie sunnite classique, et enfin Rachid Rida, qui était proche du wahhabisme à la fin. Aucun d'entre eux n'a entrepris une quelconque mise en question de la théologie. Donc il y a un écart total entre des penseurs qui visaient à défendre leur héritage dans le contexte de la fin du XIXe siècle et d'autres qui critiquent de fond en comble l'héritage.
C'était pour vous entendre dire cela que, parce que certains focalisent uniquement sur cette lignée, alors que cette nouvelle théologie existe, elle est là, elle n'a pas encore fait, elle n'a pas encore essaimé, mais ce sont grâce à vos travaux que les auditeurs, en tout cas, qui vous en sauront gré, en connaîtront davantage. Et puis, quel est l'avenir? Quelle est la réception?
Un historien ne doit pas parler de l'avenir, bien entendu. Mais, comme ces efforts se sont déployés depuis 30 ans, et qu'ils ont été menés par des personnes qui ont été des professeurs. Il y a d'ailleurs, j'ai proposé de reconsidérer aussi les rapports que nous avons avec les auteurs qui sont pour nous les sources primaires, qui sont dans certains cas, au sens littéral, nos collègues. Ces auteurs ont enseigné pendant des décennies. Donc ils ont eu des centaines d'étudiants. Ils ont publié des ouvrages, ils ont participé à des congrès dans leur pays, à l'étranger. Ils ont écrit dans des revues qui sont diffusées dans leur pays. Et au-delà, par exemple, la principale revue qui se fixe explicitement la mission de contribuer à l'élaboration d'une nouvelle théologie en islam, qui a été créée en 1994 en Iran, Naqd va Nazar, que l'on peut traduire par critique et regard, ou critique et point de vue, est diffusée jusqu'au Maroc. Autrement dit, il y a une diffusion des idées. Quant à Chabestari, il fait l'objet de travaux de recherche. En Iran même, certains étudiants de master comparent ces doctrines herméneutiques à celles, par exemple, du grand ayatollah Javadi Amoli. Autrement dit, ce sont des figures éminentes, connues dans leur pays et au-delà de leur pays, dans le cas des auteurs iraniens, par des traductions. Quant à Abu Zayd et Hanafi, ils sont régulièrement réédités dans leur pays et ailleurs.
Bien, il reste à connaître davantage l'école d'Ankara. Merci, merci infiniment. Vous vouliez dire quelque chose?
Je souhaitais simplement remercier Monsieur Bencheir pour la qualité des dialogues qu'il permet.
Je n'ai aucun mérite, merci bien à vous plutôt. Et ce sont encore une fois nos auditeurs qui vous en sont en gré. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez, chers auditeurs, l'émission, comme toutes celles de la chaîne, dans les podcasts, comme on dit. Elle est à écouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Nadège Antonini. Et la réalisation est assumée par François Connac.